Et dans ce passage que je viens de vous citer de l'Évangile, c'est le contraire, c'est le Père qui attend dans la chambre intérieure. Et nous sommes invités à y entrer. Mais l'idée est exactement la même, c'est la même réalité, c'est cette rencontre intime dans le cœur de l'homme. Quel renversement de perspective par rapport à la perception de Dieu dans le Premier Testament. Dieu patiemment, humblement, nous attend dans notre chambre, la chambre de notre cœur. Et comme Jacob, après la visite et la lutte avec l'ange dans le chapitre 28 de la Genèse, nous pouvons dire de notre cœur, Dieu est là et je ne le savais pas. Nous pensons parfois que notre prière est un effort pour atteindre Dieu, qui serait loin de nous, dans un ailleurs, hors de notre portée. Alors que le Christ nous montre au contraire qu'il est tout proche et que c'est lui qui nous attend, au cœur de nous-mêmes. Et donc le cœur humain, notre cœur à tous, à chacun d'entre nous, est devenu le vrai lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme. Et c'est un Dieu paternel, aimant, tendre, qui nous attend patiemment et humblement. Et donc nous voyons ainsi qu'à l'humilité du disciple, à l'humilité de l'homme, répond l'humilité de Dieu. Et je crois qu'on pourrait plutôt dire à l'humilité de Dieu répond l'humilité de l'homme. Car nous ne serions jamais appelés à devenir humbles, à être humbles, si Dieu ne l'était pas. Comme l'écrit Isaac le Syrien, phrase magnifique, l'humilité est la parure de la divinité. Dieu s'efface, se fait petit, pour que l'homme soit et qu'il grandisse. Nous y reviendrons plus loin parce que c'est vraiment une réalité tout à fait fondamentale, que dans la tradition orthodoxe, on appelle la kénose. Et cette attitude est évidemment très riche d'enseignements. Je vous livre ici un texte que je trouve beau. Toutes les citations, vous les trouverez dans... Je vous les ai photocopiées. Vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Vous les lisez ou vous ne les lisez pas. Je ne vous engage pas à les lire d'affilée, parce que c'est un peu indigeste, il y a 6 pages, mais à vous laisser guider par l'Esprit Saint. Prenez page 3, page 4, page 6, page 1, et laissez-vous imprégner, et quand une citation vous touche, vraiment, restez sur celle-là. Selon la tradition de l'Ancien Testament, Dieu ne vient pas ailleurs sur la terre que dans le temple de Jérusalem. Mais le voilà dans une chambre, un lieu tellement banal et dérisoire. Quelle humilité dans cet abaissement du Père céleste. Telle est, à mon avis, la grande innovation du Notre Père. Elle est la prière où l'humble vient à la rencontre de l'humble. C'est la prière où l'homme finit par ressembler à Dieu dans son humilité. Le chemin qui nous conduit au Père est celui de l'humilité, chemin emprunté par l'homme aussi bien que par Dieu. Et donc, je le redis une dernière fois avant de passer à autre chose, Dieu ne se révèle pas à nous d'une manière grandiose, mais il se révèle dans le secret du cœur. Il se cache. Et son lieu de retraite est notre cœur. Et pourquoi se cache-t-il? C'est tout simple, c'est comme le jeu de cache-cache des enfants, pour que nous le cherchions. Comme la fiancée cherche le fiancé dans le beau poème du Cantique des Cantiques. Et donc notre cœur est devenu la porte du royaume des cieux, où le Christ nous invite à entrer pour trouver notre Père. Monseigneur Jean disait, c'est par le silence, par la prière, par la pénitence, par l'attention devant Dieu que nous entrerons dans la cellule de notre cœur. Ainsi, nous trouverons en nous ce lieu inexprimable et caché pour le monde extérieur, et même pour nous si nous sommes distraits. Voilà bien le grand piège, la distraction. Ce lieu où réside la paix, la sérénité, la flamme, où s'offre à chaque instant l'offrande de l'amour de Dieu, où conversent les anges dans notre silence intérieur. Car le lieu céleste et le royaume de Dieu sont en nous. Rappelons-nous, le Christ le dit explicitement. Le royaume est en vous. Sans abandonner la vie extérieure et le monde, que ces activités ne nous détournent pas de la vie intérieure. Ne cherchez pas de point d'appui dans le monde extérieur, mais en vous. Le point d'appui, le point de rencontre est en nous. Vous n'ignorez pas qu'il existe différentes formes de prière et en gros deux grandes familles de prières. La prière de demande, la prière de louange, avec des sous-catégories dans lesquelles je ne m'entrerai pas parce que je les trouve inintéressantes. À première vue, le Notre Père n'est qu'une prière de demande. Et en réalité, il contient même sept demandes essentielles. Sept, pas six, pas huit. Pourquoi sept? Eh bien, vous savez que le sept, le symbolisme du chiffre sept, c'est la plénitude, la totalité. On le voit dans de nombreux passages de la Bible, le nombre de jours de la Genèse, le nombre de jours de la semaine, le chandelier à sept branches, la menorah juive, et les sept dons de l'Esprit, les sept premiers diacres de l'Église, et dans l'Apocalypse, les sept églises, les sept anges, les sept sceaux, etc. Donc ce chiffre 7 n'est pas du tout un hasard dans le Notre Père. Et d'autre part, je vous le disais, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le Notre Père est une plénitude, il est total, complet, tout y est. Et vous le savez sans doute aussi, vous l'avez sans doute observé par vous-même, le Notre Père contient deux grandes parties distinctes. Et je dirais même trois, mais j'y reviendrai à la troisième, qui est la première. La première partie, Notre Père qui es aux cieux, ou Notre Père céleste, glorifié soit ton nom, qu'arrive ton règne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et le sur la terre comme au ciel concerne toutes les demandes, et non pas simplement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais glorifié soit ton nom sur la terre comme au ciel. Qu'arrive ton règne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et qu'est-ce que la terre et qu'est-ce que les cieux ou le ciel? La terre est le lieu des hommes, les cieux est le lieu des anges. Et donc cette première partie est centrée sur Dieu. Et la seconde partie concerne notre vie terrestre, plus spécifiquement, et nos besoins spirituels vitaux. Donne-nous notre pain substantiel, remets-nous nos dettes, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, et délivre-nous du pervers ou du malin. Il y a différentes traductions. Alors on pourrait se dire, on l'entend parfois, je l'ai déjà lu et entendu, que la prière de demande est une prière inférieure à la prière de louange. Comme un premier degré. Parce qu'elle ne serait pas gratuite, elle constituerait un premier niveau. Nous sommes en demande, en attente de quelque chose dont nous espérons avoir en retour. Alors que la louange, ou même, et mieux encore, l'adoration silencieuse, serait l'état parfait, le nec plus ultra de la prière. Et pourtant, nous constatons qu'à de multiples reprises, Jésus nous invite à demander, sans nous lasser. Et à adresser au Père notre prière sans nous lasser. Il illustre cette réalité par plusieurs paraboles, celle de l'ami importun. Vous vous rappelez cet ami qui va trouver son ami pendant la nuit et qui insiste, et l'autre ne veut pas se lever, mais finalement, pour être tranquille, il se lève et qu'est-ce que tu veux? Allez, je vais te donner ce que tu veux et que tu me laisses dormir. Voilà, première parabole, un peu résumée de manière rade et pâquerette. Deuxième parabole, c'est la veuve insistante qui va trouver le juge pour le réveiller aussi. Et tout ça, on le trouve dans Saint Luc, chapitre 11, chapitre 18. Et ça nous montre, le Christ nous montre par là, l'importance de demander sans nous lasser. Mais aussi dans le Notre Père, puisque je vous dis, elle contient cette demande, cette prière sublime. Il y a de nombreux passages dans les évangiles, le Christ dit, demandez et vous recevrez. Car quiconque demande reçoit. Et il ajoute, si vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et ailleurs encore, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, soyez assurés que vous le recevrez. L'attitude de celui qui demande est donc loin d'être méprisable et d'être à premier niveau, comme je le disais tout à l'heure. Bien au contraire. Cette attitude de demande exprime la confiance avant tout, c'est-à-dire la foi, l'écoute, l'humilité de celui qui ouvre son cœur à Dieu. Se mettre en état de demande, c'est se mettre en état de réceptivité et accueillir ce qui nous sera donné. Savoir oser demander. Comme l'écrit Jean-Yves Leloup de manière très belle, la demande est une écharde dans nos autosuffisances. La demande est une écharde dans nos autosuffisances. Nous nous rendons vulnérables à l'autre et dans cette vulnérabilité s'épanouit notre désir. Un autre auteur écrit « Le Notre Père est un cadeau fait aux humbles et doit être dit dans la reconnaissance, l'attention, l'émerveillement. Et Notre Père est la prière des indigents, la prière de ceux qui débutent après tant de commencements, la prière qui comble le cœur du pauvre. » Et donc cet état d'humble réceptivité de celui qui demande est aussi bien sûr un élan d'adoration et de confiance. Jean Carmignac, qui est un commentateur célèbre du Notre Père, le Père Jean Carmignac, dit « Lever les yeux au ciel et tendre la main. Il y a deux gestes non pas contraires, mais qui s'appellent et se complètent l'un l'autre. Le pater commence par l'adoration des intéressés. Et chaque requête, dans chaque requête, la voie de l'adoration domine. C'est pour mieux le servir, le Père, que nous le prions de nous aider. » Et si nous approchons des trois premières demandes qui constituent, comme je vous le rappelais, la première partie de la prière, nous voyons que ces premières demandes n'en sont pas réellement. En tout cas, elles ne nous concernent pas directement. Quand nous disons « Que sanctifié, glorifié soit ton nom, qu'arrive ton règne, que ta volonté s'accomplisse », c'est plutôt une louange, un cri d'enthousiasme que nous adressons au Père. C'est une demande, si on le veut, mais totalement désintéressée. Et donc, ces trois premières demandes sont plutôt l'expression d'un désir. Le désir de voir glorifier Dieu et son règne s'accomplir parmi nous. Ce sont donc des cris d'espérance, de reconnaissance joyeuse. Oui, sur la terre comme au ciel, que sanctifié soit ton nom. Oui, que ton règne advienne. Oui, que ta volonté sainte et bienfaisante soit accomplie sur la terre comme elle est aux cieux par les saints et les anges. Ce qui est magnifique dans le Notre Père, c'est que nous ne commençons pas la prière en pensant à nous-mêmes, à nos besoins. Il y a des demandes qui nous concernent, nous, ça viendra dans la deuxième partie de la prière. Mais nous la commençons en rendant gloire à Dieu. Dès les premiers mots de la prière, nous sommes orientés dans la bonne direction, vers le Père, la source, le principe d'où vient la vie, d'où tout vient et tout retourne. Un commentateur écrit « Il faut un regard de contemplatif et de croyant pour penser à demander en premier ce qui concerne la gloire de Dieu et non pas ce qui nous concerne nous. » Et donc, le début de cette prière est une contemplation. Le début du Notre Père nous décentre de nous-mêmes et nous tourne vers Dieu dans la bonne direction. Nous rendons gloire dès le départ à Dieu le Père, dont nous recevons les bienfaits. Et nous sommes conscients des dons qu'il nous donne. C'est un élan du cœur. Et nous recevons en retour de nouveaux dons, et en particulier celui de la grâce et de l'énergie divine. Dès le début de la prière, nous sommes invités à prendre conscience de cet échange, de cette circulation de dons et d'accueil réciproque entre Dieu et nous. Nous sommes, dès les premiers mots de cette belle prière, placés dans ce qui est essentiel dans notre tradition chrétienne. Et qu'est-ce qui est essentiel? C'est la relation entre des personnes libres et aimantes. En effet, comme je vous le disais abondamment, je ne vais pas insister, sinon je me répète, ce sont des cris du cœur et un assentiment enthousiaste à l'être divin en trois personnes que nous adressons dans les premiers mots de la prière du Notre Père. Vous direz peut-être, tiens, les trois personnes, mais jusqu'ici je n'ai entendu que parler du Père. En réalité, si nous sommes attentifs, et si nous creusons un peu ce que la tradition nous rapporte des premiers mots de la prière, nous y trouvons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Père, bien sûr, inutile d'insister, on en parle depuis tout à l'heure, mais où se trouve le Fils? Eh bien, dans le Saint Nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié. Et où se trouve l'Esprit? Dans le royaume, que ton règne ou ton royaume advienne. Par la grâce de l'Esprit Saint. Olivier Clément écrit ceci: la révélation trinitaire s'inscrit dans la prière que nous a enseigné Jésus lui-même, le Notre Père, dont les premières demandes invoquent les trois personnes divines. Car le Fils est le nom éternel du Père. Il a sanctifié le nom, ou glorifié le nom, jusqu'à la mort sur une croix. Et le royaume s'identifie à l'Esprit Saint. Et donc nous entrons dès le départ, même sans le savoir, ou sans le savoir de manière aussi explicite que ce que je l'exprime maintenant, nous entrons directement en communion avec les trois personnes de la Trinité, dès les premiers mots du Notre Père. C'est-à-dire que nous entrons dans une circulation, une relation, une circulation d'énergie, d'amour, qui caractérise les relations trinitaires, où chaque personne divine rend gloire à l'autre en lui disant « Non pas moi, mais toi ». Le Notre Père, le début du Notre Père en particulier, c'est l'être humain qui dit à Dieu « Toi d'abord, que ton nom soit glorifié, que ton royaume ou ton règne advienne, que ta volonté soit faite ». Maintenant, nous allons commencer à nous approcher de la chaîne montagneuse que constitue le Notre Père. Et en réalité, je vous disais qu'il y a sept montagnes dans la chaîne, qui sont les sept demandes dont je vous parlais tout à l'heure. Mais au milieu de ces sept montagnes se dresse la montagne sacrée par excellence, le Père. Notre Père. Un commentateur contemporain de Notre Père rapportait cette anecdote significative. Il avait un guide spirituel qui était une moniale et qui lui conseillait d'appliquer l'exercice spirituel qui consiste à s'arrêter à chaque mot de la prière. Et elle lui disait « Figure-toi que je ne parviens jamais à dépasser les deux premiers, c'est-à-dire notre Père. Et je m'arrête là dans une contemplation abyssale. » Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Nous n'allons pas aller très loin dans la chaîne montagneuse. Imaginons que nous prenions l'hélicoptère, nous survolons, nous approchons, nous avons fait ce survol dans les premiers mots que je viens de vous dire, et puis nous allons nous poser directement sur le sommet de la plus haute montagne, notre Père. Et ce début de la prière est une fin en soi, un aboutissement, une plénitude. Mais je pense que nous pouvons apprendre à le dire avec amour, tendresse, élan du cœur, et avec une pleine conscience de ce que nous disons. Et c'est la quintessence de la prière chrétienne que ces deux premiers mots, notre Père. Notre Père, ça contient tout. Ça contient Dieu, nous l'invoquons. Ça contient notre humanité, puisque c'est nous qui invoquons, et nous parlons de notre, de la dimension communautaire. Et nous sommes donc tous filles et fils du même Père divin. Et par ces deux simples mots, nous traçons déjà le signe de la croix, qui est si important dans notre tradition. Pourquoi? Parce que la branche verticale, c'est notre Père, notre relation à ce Père transcendant qui, pourtant, est immanent au plus profond de nous, et la branche horizontale, c'est notre fraternité, notre Père. Nous traçons donc le signe de la croix par ces simples mots. Et nous prenons aussi conscience de plusieurs choses fondamentales dans la tradition chrétienne. D'abord, c'est une évidence que Dieu est. Deuxièmement, qu'il est Père. Et troisièmement, que nous sommes ses fils et ses filles. Et donc, conséquence de cette dernière réalité, c'est la prise de conscience aussi de notre fraternité humaine. Et ce sont ces points que je vais développer dans la fin de cet exposé-ci et cet après-midi dans le deuxième exposé. Mais avant d'entrer dans la contemplation de ces mots du Notre Père, je vous invite à nouveau à reporter notre regard sur la belle icône de Monseigneur Jean et à prononcer ensemble, mais lentement et puis intérieurement dans le silence pendant quelques minutes, ces deux simples mots, Notre Père. Notre Père. Notre Père. Père très bon, nous nous plaçons devant toi comme tes enfants. Révèle-toi à nous par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, par la force, la puissance et l'enthousiasme joyeux de l'Esprit-Saint. Appeler Dieu Père, Abba, Papa, voilà une audace et une nouveauté qui dépasse tout ce que l'homme pouvait imaginer avant la venue du Christ sur terre. Abba, personne avant Jésus n'avait osé s'adresser ainsi à Dieu. C'est une grande innovation. Abba est le diminutif affectueux du mot Père, Papa. Quel étonnant vocatif! Quelle force, quelle intimité. Nous ne mesurerons jamais assez la profondeur de ce mot. Quelle innovation, mais quelle révélation aussi. Par ce seul mot, Jésus ouvre nos yeux sur Dieu, un Père, mon Père, notre Père, et sur notre propre identité devant lui, ses fils et ses filles. Et tout cela dans une insondable intimité. Comme le proclame le Père avant que l'Assemblée ne prie le Notre Père dans la liturgie, rappelez-vous, il dit « Non selon nos mérites, Père Saint, mais par obéissance au commandement de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, nous osons dire. » Comment oserions-nous appeler Dieu Papa, Père, Abba, si Jésus lui-même ne nous l'avait pas enseigné? Dieu dans la tradition juive, et c'est là aussi le cas dans la tradition musulmane, est avant tout et uniquement presque le tout autre, c'est-à-dire le totalement transcendant, celui que l'on ne peut même pas nommer. Et on ne peut à ce point pas le nommer qu'on lui donne 99 noms dans l'islam, c'est-à-dire une multitude de noms qui aucun ne traduit la réalité de ce qu'est Dieu inconnaissable. Aucun nom n'est satisfaisant pour s'adresser à Dieu. Et dans la tradition juive, même chose, on exprimait, on parlait à Dieu avec de nombreux noms. Je vous en donne quelques-uns, mais il y en a d'autres. Adonai, El, Elohim, Yod et Vavé, El Shaddai, Sabao, Ey, Eye. Et nous avons évidemment dans notre tradition chrétienne conservé cette conscience du caractère innommable de Dieu. On ne peut le nommer réellement. On ne sait pas ce qu'il est dans sa nature profonde. Et on a des tas de prières, dans la très belle prière que vous connaissez sans doute de Saint Grégoire de Nazianz, qui dit « Ô toi, l'au-delà de tout, tu as tous les noms et aucun nom ne peut te nommer. Tu es innommable. » Et seul Jésus appelle Dieu Père. Il lui donne donc un nom si proche, si intime, si tendre que celui avec lequel nous nous adressons à notre Père biologique. Quand nous en prenons conscience de cette réalité-là, que c'est les mots mêmes du Christ que nous employons pour nous adresser à Dieu, nous nous sentons en communion intime avec notre Seigneur Jésus, qui prononçait ces mêmes mots dans une fervente adoration. Comment ne pas être bouleversé par cette réalité? Comme l'écrit un auteur qui s'appelle Raïssa Maritain, c'est Jacques Maritain en réalité, les grands souhaits contenus dans les trois prières de demande, avec quelle tendresse et quel désir Jésus devait les prononcer. C'était ses vœux à lui qu'il offrait à son Père, pour le nom de son Père, pour le royaume de son Père, pour la volonté de son Père. C'était ses vœux à lui, avant d'être ceux que, comme chef de l'humanité, il offrait au nom de ses frères. Et Jésus ne va pas appeler Dieu Père une seule fois ou quelques fois en passant parmi de multiples autres noms qu'il donnerait à Dieu. Il va l'appeler de manière exclusive, Père. Et nous rencontrons plus de 60 fois cette occurrence dans l'Évangile, ce qui est énorme. Et c'est donc pratiquement, je crois même, le seul nom que Jésus donne à Dieu, Père. C'est une audace dont seul lui était capable. Comme l'écrit Jean-Yves Leloup, c'est un mot enfantin, et nul avant Yeshua ne l'avait employé pour s'adresser à Dieu. Et c'est avec ce mot-là, c'est ce mot-là que l'on retrouve dans chacune de ses prières. Qui oserait dire à l'inconnu, Yod et Vavé, dont vous savez, on ne pouvait pas prononcer le nom, sauf le grand prêtre une seule fois par an, dans le Saint des Saints. Qui oserait dire à l'inconnu, Yod et Vavé, à la conscience d'être, je suis, ayez, à l'harmonie des mondes et de l'être, Ya, à l'énergie créatrice, Elohim, à la grande mère, Shaddai, au Seigneur de l'univers, Adonai, à la justice même, Shabbat, qui oserait dire papa? Qui oserait s'en reconnaître fille ou fils de ce Dieu terrible? Nous ne pouvons appeler Dieu le Père que parce que seul Jésus, lui, le connaît comme Père et nous le révèle comme un Père. Et Jésus lui-même dira, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Et ceux à qui il veut le révéler, c'est nous. La prière que nous donne Jésus nous révèle aussi que Dieu est une personne avec laquelle nous pouvons entrer en relation. Ce qui correspond d'ailleurs, sur ce point, à la révélation du Premier Testament. Rappelez-vous Moïse au buisson ardent, je suis qui je suis ou qui je serai. Je suis en devenir d'être, mais je, c'est-à-dire une personne. Et que Dieu soit une personne, est-ce d'une telle évidence? Il faut parfois se poser des questions élémentaires. Eh bien, interrogeons par exemple nos contemporains à ce propos. Et qu'est-ce qu'on constate? Je crois qu'on pourrait constater que la plupart d'entre eux, du moins ceux qui n'excluent pas d'office l'existence même de Dieu, s'en font une idée extrêmement floue, vague, abstraite, lointaine. Le divin, on entend souvent parler du divin ou de la déité. Le divin existe sans doute, peut-être, pourquoi pas. Il existe peut-être aussi d'autres êtres conscients dans des galaxies que nous ne connaissons pas, pourquoi pas. Mais ça ne va quand même pas affecter la vie quotidienne, ce Dieu lointain, abstrait. À quoi me sert-il? Cette déité lointaine reste extérieure à ma vie. Mais qu'il existe un Dieu personnel, allons donc. C'est évidemment une projection enfantine ou infantile de l'homme qui est en manque de sécurité, un anthropomorphisme primitif. Voilà, je crois, ce que pensent beaucoup de personnes à notre époque, aidées par les sciences humaines. Ensuite, nous constatons aussi que d'autres personnes, qui peuvent être influencées là par d'autres spiritualités, notamment orientales, ou aussi par le platonisme, l'idéalisme platonicien n'est pas mort, loin de là, c'est d'ailleurs une très belle pensée, Platon, ou alors par le gnosticisme, résiste des quatre fers, si je puis dire, à la possibilité que Dieu se révèle, et surtout qu'il s'incarne dans la matière. Et nous trouvons là, par exemple, les tenants inconditionnels de l'apophatisme qui affirme « Dieu existe, certes, mais on ne peut rien dire de lui. Rien. On ne peut même pas le nommer. Surtout ne rien dire de Dieu. Car tout ce qu'on dit de lui le déforme, le rabaisse et à la limite le salit. On salit son nom en parlant avec nos mots humains tout à fait inadéquats. Mais pourtant, à ces réflexions, la Bible pose une évidence, la révélation d'un Dieu et d'un Dieu personnel, avec effectivement l'impossibilité de cerner sa nature, d'où la multitude des noms qu'on lui donne. Or, nous voyons Jésus s'adresser à Dieu d'une toute autre manière. Il le nomme mon Père, Abba, Papa. Et ça devient extraordinairement concret, proche. Et c'est d'une audace telle que les Juifs vont être scandalisés, profondément choqués, vont se mettre à crier, à hurler, en se disant « Il se fait l'égal de Dieu, en nommant Dieu mon Père. » Et c'était, ils n'avaient pas tout à fait tort, ils avaient tout à fait bien perçu la chose. Et donc c'est d'une nouveauté tout à fait inacceptable dans le milieu juif, une révolution dans la tradition biblique. Non seulement on va appeler Dieu Père, mais si on appelle Dieu Père, c'est parce qu'on est son fils. Et donc ça veut dire, deuxième chose profondément choquante pour la tradition juive, que le Père n'est pas seul. Il y a le Père et forcément le Fils qu'il appelle Père. Et donc, voilà que Dieu apparaît au moins deux personnes. Voilà, grande nouveauté révélée par le Fils, le Verbe divin. Et c'est tellement choquant dans la tradition juive et blasphématoire. Et vous savez que le blasphème pouvait être puni de la lapidation, de la mise à mort par les pierres. C'est tellement choquant que Jean nous rapporte les Juifs, à la suite du fait qu'il appelait Dieu son Père, les Juifs cherchaient à le tuer, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant l'égal de Dieu. J'entends Saint Jean chapitre 5. Et Jésus n'y va pas de main morte. Je prends d'autres citations. Qui m'a vu, a vu le Père. Le Père et moi, Bernard l'a rappelé, sommes un. Nul ne va au Père que par moi. Le Père est en moi, et moi je suis dans le Père. Tout ça vous le retrouverez dans Saint Jean. Lorsqu'on examine le Premier Testament, et non pas le Second, ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau, comme dans la chanson, Lorsque dans le premier testament, on voit des allusions, on voit poindre des allusions à la paternité divine. Elles sont là, effectivement. Mais ce sont encore des allusions très timides, très isolées. Et en réalité, elles ne sont pas le signe d'une relation personnelle d'un père avec son fils, comme celle de Jésus avec son propre père divin, mais plutôt, elles sont employées de manière symbolique, imagée, comme signifiant soit la fécondité de Dieu, Dieu est père, il est fécond, il est créateur, soit son rôle protecteur vis-à-vis d'Israël. Je t'appellerai mon fils et je te ferai sortir d'Égypte. Soit, et ça, nous approchons là de ce que va nous révéler le Christ, et c'est évidemment chez les prophètes que ça apparaît, d'un éveil de la conscience juive à la tendresse divine. Mais pourtant, jamais, au grand jamais, aucun personnage biblique ne s'adresse à Dieu en lui disant « Père » et en manifestant, comme Jésus, une relation filiale et intime avec Dieu. Et Jésus va bousculer cette conception étriquée, limitée, prudente et au fond aveugle de la paternité divine en révélant qu'il est le véritable Fils de Dieu, non pas dans un sens de métaphore, de symbole, mais réel. Il est engendré par le Père. Et il vit avec le Père une relation intime, unique, mystérieuse, qui échappe à la compréhension des auditeurs. Mettons-nous un instant à la place des disciples, qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, de bons juifs pratiquants, et donc dont la pensée, l'être, est moulé profondément par la révélation du premier testament, et qui entendent le Christ dire « Je suis sorti du Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni le Père si ce n'est le Fils. » Qui n'honore pas le Père, n'honore pas le Fils. Et nous voyons donc dans cette relation entre Jésus et le Père céleste, la tendresse et l'amour qui priment. Et Jean-Yves Leloup attire notre attention sur le fait que, vous savez que dans les évangiles, nous ne prétendons pas dans la tradition chrétienne que chaque mot des évangiles est un mot de Dieu. Nous savons que ça passe par le canal de l'être humain et notamment par la foi de l'Église. Les évangiles ont été élaborés au cours des premiers siècles et donc certains exégètes se sont intéressés au fait de dire quelles sont les vraies paroles du Christ. Il y a des paroles dont on peut être sûr à 100% qu'ils sont de lui. Eh bien, le Père, mon Père, notre Père, Abba, c'est une des véritables paroles du Christ. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas imaginer que les évangélistes aient inventé ce terme si Jésus ne l'avait pas employé. Et Jean-Yves Leloup l'écrit à ce propos, le mot Abba est considéré comme ipsissima vox, un nom d'exégète, donc véritable voix, une des rares paroles reconnues comme originale et authentique, n'appartenant qu'à Yeshua, Yeshua, voilà, pas facile à dire, qu'à Yeshua seul. C'est elle qu'il nous transmet afin que nous entrions ainsi avec lui dans une intimité filiale avec l'origine de l'être, de la conscience et de l'amour. Et on peut dire, sans crainte de se tromper, que la révélation du Père, et aussi celle de l'Esprit-Saint, est au centre, au cœur de l'enseignement du Christ. Et depuis l'incarnation, ça a une grande conséquence pour nous, c'est que depuis l'incarnation du Fils unique de Dieu, du Verbe divin, il n'est plus possible de considérer Dieu à distance, comme un être transcendant et lointain, dont on ne sait rien, dont on ne peut rien dire et dont on ne peut prononcer le nom. Par le Verbe qui est la parole, Verbe et parole, c'est synonyme, il se révèle, le Père se révèle comme un Père proche de nous, qui nous aime avec tendresse et avec lequel nous sommes invités par Jésus à nouer personnellement, chacun d'entre nous, une relation unique, personnelle, amoureuse, à l'image de notre personne, elle aussi unique, Et c'est pourquoi, je vous le rappelais en commençant, Jésus nous invite à le prier dans la chambre de notre cœur, notre chambre intérieure, dans le secret, dit-il. Notre Père qui es aux cieux. Et pourquoi le Christ ajoute-t-il « qui est aux cieux » ou « céleste » ? Ce terme « Père céleste » va se retrouver des dizaines de fois, par exemple, dans l'évangile de Matthieu. Le Père est souvent accompagné de l'adjectif « céleste ». Eh bien, pour l'opposer au Père terrestre. Et le Père terrestre, dans la mentalité juive, dans la tradition juive, qui est-ce ? Nous avons tous pour Père, disent les Juifs, Abraham. Et donc, quand pour un juif, on prononce le mot « père » sans ajouter « céleste », c'est Abraham qui apparaît. Nous avons tous pour père Abraham, dans Saint Luc, ou « père Abraham, Abraham est notre père ». Il y a des multiples citations. Et donc, d'ailleurs, Abraham, on l'appelle le père des croyants. Les musulmans aussi ont pour père Abraham, comme vous le savez. Le Christ nous invite à nous tourner vers le seul vivant, parce que, comme dit le Christ, Abraham est mort, et les patriarches aussi sont morts. Mais le Père Céleste, lui, est vivant. C'est le Dieu vivant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Père dont toute vie provient et vers lequel toute vie retourne. Et le Père Céleste, pourquoi céleste ? Évidemment, les cieux, c'est une image, comme vous le savez. Le Père, ce n'est pas une image, mais les cieux ou céleste, c'est une image. C'est pour l'opposer au Père terrestre. Et les cieux ne désignent évidemment pas un lieu matériel. Quand on voit souvent les enfants prier en tournant les yeux vers le ciel. Et nous avons peut-être aussi cette tendance à localiser Dieu dans l'azur, au-dessus de notre tête, dans le ciel bleu. Mais les cieux désignent en réalité la transcendance du Père. Son caractère incréé, inaccessible, incompréhensible. Le Père, comme vous le doutez bien, n'est pas localisable dans les cieux. Et quand on emploie dans la Bible, et on l'emploie aussi dans les prières et dans la liturgie, l'expression « au ciel, sur terre et dans les enfers », il ne s'agit évidemment pas de trois lieux distincts, mais de trois états distincts. L'état du ciel, c'est l'union avec Dieu, comme le vivent les anges et les saints. L'enfer, c'est évidemment le lieu de la séparation avec Dieu. L'enfer ou les enfers. Et le milieu des créatures humaines, là, on peut dire que c'est un lieu, c'est notre terre. Et le lieu, donc, désigne, les cieux, le lieu des anges, et ça c'est important de le souligner, qui éternellement glorifie et loue le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et dire que Dieu est aux cieux, ça a une certaine importance de le rappeler, parce que comme l'écrit un moine de l'Église d'Orient dans son commentaire du Notre Père, dire que Dieu est aux cieux, c'est donner à toute notre vie une direction, et une direction qui dépasse la terre. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, on commence par nous adresser au Père, nous tourner vers lui, c'est-à-dire que directement, nous nous orientons dans la bonne direction. Voilà, je vais m'arrêter ici, je suis même 5 minutes à l'avance, c'est mieux que la SNCB, et nous prolongerons tout à l'heure le commentaire de notre Père. Alors, ce qui est prévu maintenant, c'est donc le thé, 13h30, et ce moment de solitude, et nous nous retrouvons ici à 14h15, 2h15, pour la marche consciente et la méditation.